19h sur Europe 1.
La mort de Victorine en Isère n'était pas accidentelle, c'est ce que révèle ce soir l'autopsie. La jeune femme est morte noyée avec l'intervention d'un tiers.
Les derniers chiffres de l'épidémie ne présagent rien de bon à la veille d'une nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé. Olivier Véran pourrait annoncer de nouvelles restrictions.
La capitale pourrait subir le même sort que Marseille, où la justice a tranché. Les bars et les restos resteront bien fermés.
Quid des universités? Les clusters s'y multiplient.
Près de 250 000 IVG sont pratiqués chaque année en France. Le délai légal va être porté à 14 semaines au lieu de 12, 1er février aujourd'hui.
L'incendie de Notre-Dame de Paris, la Cour des comptes demande davantage de transparence dans l'utilisation des dons.
Et puis Roland-Garros, encore une mauvaise journée pour les Français. Encore un de moins, Benoît Paire éliminé à l'instant.
La tendance météo, bienvenue, voilà l'automne.
C'est ça, c'est un jeudi très automnal, effectivement. Un vrai temps de saison demain avec des averses, des éclaircies, des températures en baisse avant l'arrivée vendredi de la tempête Alex. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une confirmation, il s'agit bien d'un acte criminel. On a les résultats de l'autopsie du corps de la jeune Victorine, retrouvée noyée lundi dans un ruisseau près de Villefontaine, en Isère.
Autopsie qui confirme donc, Jean-Luc Bougeon, qu'il ne s'agit pas d'un accident.
Effectivement, cette fois, c'est une certitude. La jeune femme n'est pas morte par accident. L'autopsie qui a été pratiquée aujourd'hui à Grenoble a conclu à une mort par noyade avec intervention d'un tiers. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur de Grenoble. Intervention d'un tiers qui est prouvée par de multiples ecchymoses retrouvées sur le corps de Victorine. Le parquet de Grenoble qui précise également qu'à ce stade, aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée. Toutefois, cette hypothèse n'est pas encore complètement écartée. Des examens complémentaires doivent encore avoir lieu. L'enquête se poursuit donc pour savoir qui peut être ce tiers. Est-ce une personne rencontrée par hasard sur le chemin du retour près du ruisseau où la jeune femme a été retrouvée lundi? On se souvient qu'elle avait appelé ses parents samedi peu avant 19h en leur disant qu'elle serait là 20 minutes plus tard. Ou alors, est-ce une personne qu'elle connaissait déjà? C'est l'autre hypothèse examinée par les enquêteurs. C'est pour cela qu'ils décortiquent minutieusement depuis plusieurs jours maintenant le téléphone de Victorine, ses communications et ses échanges sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver une éventuelle piste.
Merci Jean-Luc Bougeon.
Les Marseillais ont espéré jusqu'au dernier moment, mais la justice a tranché. Le tribunal administratif rejette le recours déposé contre la fermeture des bars et des restaurants. Décision similaire à Bordeaux en ce qui concerne les salles de sport, qui elles aussi resteront bien fermées.
Les Marseillais qui ne décolèrent pas, les représentants des bars et des restos envisagent de saisir maintenant le Conseil d'État.
Oui, alors que Paris pourrait être la prochaine sur la liste.
Face à des indicateurs très inquiétants, le ministre de la Santé, Olivier Véran, pourrait demain faire des annonces avec peut-être de nouvelles restrictions. Pour Paris donc, mais aussi peut-être pour Lyon, pour Lille, Toulouse et Grenoble. En tout cas, Jean Castex recevra demain les maires et présidents de ces métropoles. Il s'est déjà entretenu aujourd'hui avec la maire de Marseille.
Et ce matin sur Europe 1, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a confirmé une recrudescence des cas dans les universités.
Pour autant, elle écarte une fermeture généralisée, là où l'on ferme des bars et des restaurants. Pourquoi pas les facs, Virginie Riva?
Alors, on ne ferme pas les facs, car la majorité des contaminations ont lieu en dehors des lieux d'enseignement, le week-end, au cours de soirées entre amis étudiants, mais ensuite, c'est aux facs de gérer au cas par cas le problème. Si la majorité des universités ont en gros adopté la règle du 50% des cours en distanciel, 50% en physique, dès qu'il y a un cluster identifié, là on change de scénario. Le président d'université réunit sa cellule de crise et décide de la fermeture d'un site, d'une promo, d'un bâtiment. C'est beaucoup plus simple de fermer des écoles ou des grandes écoles qui ont une unité de lieu, mais parfois, il faut aussi fermer des facs. C'est le cas cette semaine à Angoulême, par exemple, à la fac de sport. Tous les cours sont à distance. Même chose à Dijon avec les premières années de psycho et les troisièmes années de médecine. Autre paramètre à prendre en compte, la zone géographique. Pour les zones d'alerte maximale, comme à l'université d'Aix-Marseille, l'intégralité des cours en amphi sont proposés à distance. Seuls les étudiants sans ordinateur peuvent venir sur le site de la fac. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, il y a des cours maintenus en amphi si l'amphi ne dépasse pas le seuil de 30% de sa capacité d'accueil.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1 notait que les déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont interdits à partir de demain, annonce ce soir de la préfecture. À moins d'un motif impérieux, cette mesure est destinée à réduire les flux de voyageurs et à protéger chacun de ces territoires de cas importés de Covid-19.
En tout cas, il n'y a pas qu'en France que les mesures se durcissent. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, comme chaque soir à 19h. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Et ce que vous nous dites, Didier, c'est que tous les pays sont confrontés à cette fameuse deuxième vague et que partout, les mesures prises pour tenter de l'endiguer passent mal.
Oui, parce qu'en fait, le rebond épidémique ne touche pas que la France. Vous savez qu'on a dépassé en début de semaine le seuil symbolique du million de décès pour la pandémie de Covid-19, avec partout, ce même constat des scientifiques et des médecins, le nombre de contaminations est à la hausse de manière importante sur l'ensemble de la planète, avec en revanche un taux de mortalité qui reste à ce stade moins élevé qu'au début de l'épidémie. Mais pour éviter un nouveau dérapage, l'Organisation mondiale de la santé a demandé au gouvernement de limiter au maximum la diffusion du virus en durcissant les mesures de distanciation sociale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas que les Gaulois qui sont réfractaires face à cette réduction des droits individuels. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ça grogne sur tous les continents, Europe, Amérique, Asie, Afrique. Aucun n'est épargné, pas même le Pacifique, à l'exception peut-être de quelques îles de Polynésie, puisque l'Australie, qui paraît pourtant bien isolée au bout du monde, a décidé un second confinement extrêmement dur, avec une fermeture totale de ses frontières pour 6 semaines, y compris pour ses ressortissants bloqués à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer chez eux.
Avec interdiction aussi d'aller visiter sa famille outre-mer.
Oui, absolument. Il faut réclamer une autorisation, une dérogation spéciale qu'il est extrêmement difficile d'obtenir. Vous imaginez l'ambiance, sachant que 33% de la population australienne est d'origine immigrés. Mais les mesures sont aussi sévères en Grande-Bretagne, avec une interdiction de toute réunion de plus de 6 personnes, y compris au sein de la même famille. En Espagne, ce sont des quartiers entiers qui sont confinés. La Hollande ferme tous ses cafés et ses restaurants à 22h et elle a instauré le télétravail comme la norme désormais. Même l'Allemagne est débordée. Pourtant, c'était le modèle de la gestion de crise sanitaire durant la première phase de l'épidémie. Et bien, la chancelière a décidé de restreindre hier les accès aux lieux publics, dont les bars, ce qui provoque des réactions outrées des professionnels et des clients. Finalement, vous voyez, les Marseillais et les Français sont pas plus râleurs que les Allemands.
Il faudra suivre le modèle suédois aussi, qui avait posé question au début de l'épidémie, où ils en sont. Je crois qu'ils ont réussi à peu près à endiguer l'épidémie avec une approche assez différente de la nôtre. Merci Didier. Merci.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Cette petite révolution vers un changement donc de législation pour l'IVG en France.
Oui, les députés ouvrent la voie en tout cas à un allongement du délai légal, Eve Roger.
Oui, ce texte prévoit 15 jours de plus pour les femmes qui désirent avorter. Le délai légal passerait donc de 12 semaines de grossesse à 14. Alors ces quelques jours en plus permettraient aux femmes qui se retrouvent hors délai parce qu'elles ont eu du mal à décrocher un premier rendez-vous, tout simplement du mal à se décider, leur permettrait donc d'éviter de partir à l'étranger pour avorter en Espagne, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Elle serait 3 à 5 000 chaque année, donc un plus pour elle. Mais les médecins, eux, sont mitigés, même ceux qui pratiquent déjà les IVG, comme Philippe de Ruel, secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens.
Moi, je suis assez partagé sur cette question. J'entends qu'il y a des femmes qui dépassent le délai. Pour moi, qui fait des interruptions volontaires de grossesse, c'est des gestes que nous, on n'aime pas beaucoup. Idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on facilite l'accès à l'IVG le plus tôt possible, plutôt que d'allonger sur des situations qui, techniquement, pour nous, sont quand même vraiment plus difficiles.
Alors, il faut rappeler qu'en France, ce n'est pas toujours facile d'accéder à l'IVG, justement. Seuls 3% des généralistes et gynécologues et 3,5% des sages-femmes le pratiquent. Un acte médical aujourd'hui complètement dévalorisé en France.
Merci beaucoup. Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1. Un lycéen a poignardé un autre élève dans une salle de classe du lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce matin. La victime âgée de 16 ans a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Son agresseur a été placé en garde à vue.
Dans l'actualité également ce soir à 19h10, cette question. Que sont devenus les dons pour Notre-Dame de Paris?
Eh bien, la Cour des comptes épingle la gestion de l'argent qui a été récolté. Une très
grosse
somme.
Il y en avait beaucoup d'argent.
Effectivement. Les Français ont payé pour restaurer la cathédrale, pas pour financer les dépenses de fonctionnement de l'établissement public chargé de la restauration, justement, du bâtiment. Ce que regrette Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
Nous demandons que les dons servent tous à ce pour quoi ils ont été prévus. Les donateurs ont donné pour reconstruire et restaurer la cathédrale. Ils payent aussi, ce n'est pas un montant considérable, mais ça nous paraît préjudiciable à la clarté, les frais de fonctionnement de l'établissement public, 40 personnes, un loyer, des salaires. Et donc ce que nous demandons, c'est que soit mis fin à cette débudgétisation et qu'une subvention soit inscrite au budget du ministère de la Culture pour assurer le financement de l'établissement public.
Pierre voilà. Moscovici, le président de la Cour des comptes, et la réponse ce soir de Christophe Charles Rousselot, qui est le délégué général de la Fondation Notre-Dame. Pour lui, il n'y a eu aucun abus.
Nous avons une mission de collecte, mais nous avons un rôle aussi d'information des donateurs. Donc on se sent très concerné, bien sûr, par ce que dit ce rapport. Et tout le dialogue que nous avons commencé à avoir avec l'établissement public a pour objectif, justement, d'interroger l'établissement public sur l'utilisation des fonds. L'établissement public fait tout sauf du gaspillage. Il n'y a aucune dérive en matière de gestion des dons. Je crois que c'est la chose qu'il faut établir ou rétablir. Donc aucun donateur jusqu'à présent n'a été floué.
Le président de la Fondation Notre-Dame au micro européen de Jeanne Bergaoui.
Et rappelons que les dons à l'époque, au moment de l'incendie, avaient dépassé les 900 millions d'euros. Au soir de la deuxième journée d'enchères, l'État est assuré de retirer au moins 2,65 milliards d'euros de l'attribution des fréquences de la 5G en France.
Oui, chacun des 11 blocs de 10 MHz mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros a atteint un nouveau prix de 114 millions d'euros.
Un mot du débat d'hier soir aux États-Unis, on en a beaucoup parlé. Joe Biden dénonce ce soir le comportement de Donald Trump lors de ce débat.
Comportement qui, dit-il, est une honte nationale. Les médias américains parlent, eux, de shit show. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin que je traduise.
Oui, allez-y, traduisez.
Shit show, débat de merde.
Non, je plaisante. Un tour par Roland Garros maintenant.
Absolument.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Axel May, on vous retrouve en direct avec une mauvaise nouvelle. Hein. Un nouveau Français éliminé.
Ouais, là, de chaud, il n'y en a pas eu pour Benoît Paire. Il est apparu fatigué, arrivé en manque de repères. C'est le cas de beaucoup de joueurs, vous me direz, dans cette saison chamboulée par le coronavirus. Mais lui a mal vécu sa quarantaine à l'US Open. Et Benoît Paire, 8e de finaliste l'an dernier à Porte d'Auteuil, est tombé dès le deuxième tour face à un spécialiste de la terre battue, l'Argentin Federico Coria. Ce nom vous dit quelque chose, Coria, c'est petit frère de Guillermo, ancien finaliste de Roland-Garros, c'était en 2004. Alors Federico Coria arrivait tard sur le circuit professionnel et qui a donc battu Benoît Paire 6-7, 6-4, 3-6, 1-6 en 2h30 de jeu. En ce moment, vous avez un autre Français qui est sur les cours, en l'occurrence sur le cours central, Pierre-Hugues Herbert face à Sacha Zverev, l'Allemand. Il a remporté la première manche 6-2 mais vient de perdre la troisième manche, donc 6-4, 7-6 dans la deuxième et la troisième manche pour Zverev. Et la quatrième manche vient de débuter. Et puis pour être complet, Caroline Garcia, opposée sur le court Suzanne Lenglen à une Biélorusse, Sasnovic, 3-2 pour Garcia dans la première manche. Et puis on rappelle bien sûr la bonne surprise du jour quand même, le jeune Hugo Gaston, 20 ans, qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros.
Ça fait qu'il reste combien de Français là, Axel May ?
Bah, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est qualifié pour le troisième tour, c'est Hugo Gaston. Mais vous avez Garcia qui, pourquoi pas, peut faire quelque chose. Bonzi, Benjamin Bonzi, lui aussi presque un néophyte qui va jouer tout à l'heure. Et puis demain, on aura notamment Clara Burel, la française, Alizé Cornet et Fiona Ferro. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu de joueurs et de joueuses.
Heureusement, on suivra ça avec vous. Merci Axel May.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. La météo avec Anissa qui nous annonce jeudi, pas terrible, terrible.
Hein. Un vrai temps de saison, c'est ça effectivement Julien, avec une perturbation qui arrive par l'ouest cette nuit et qui demain matin, du sud-ouest aux frontières belges, donnera de la pluie. Sur la façade est et sur le pourtour méditerranéen, là le temps reste sec avec des éclaircies. Dans l'après-midi, la perturbation avance, de l'Alsace aux Alpes, il pleut. En bord de Méditerranée, à part quelques entrées maritimes sur les Bouches-du-Rhône et le Var, le ciel est dégagé. Sur le reste du pays, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Alex arrive par la Bretagne et ça risque d'être violent. Les températures demain, 6 à 14 degrés le matin, 13 à 24 l'après-midi.
Bien, merci Anissa. À demain.
À demain.
19h15, on ouvre à présent comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste atterré, Thomas Porcher. Bonsoir,
bonsoir
Thomas. Ça veut dire quoi atterré d'ailleurs ?
Oh, atterré, c'est un groupe qui s'est créé en 2011 suite aux politiques d'austérité.
Donc, atterré, voilà. Plutôt à gauche, on peut le dire.
Oui, hétérodoxe, voilà, hétérodoxe. Oui, tout à fait. Parce que maintenant, tout se brouille hein, depuis le confinement.
Alors ce soir, cher Thomas, c'est un coup de cœur que vous voulez lancer pour les bénévoles du Secours Populaire et des autres associations qui sont en première ligne face à la précarité.
Oui, tout à fait. Parce qu'il faut le rappeler, hein, le confinement a plongé des centaines de milliers de personnes dans la précarité. Hein. Vous savez, tous ceux qui, en période normale, ont des fins de mois difficiles, ne partent pas en vacances, ont la tête légèrement au-dessus de l'eau, tous ces gens ont basculé dans la pauvreté avec la crise du Covid. C'est d'ailleurs ce que confirment les chiffres du dernier baromètre du Secours Populaire qui nous rappelle que plus d'1,2 million de personnes ont sollicité l'aide de l'association. pendant le confinement et que quasiment une personne sur deux était jusque-là inconnue de l'association.
Les nouveaux pauvres, en quelque sorte.
Tout à fait. Elle nous apprend également que plus d'un Français sur 10 est obligé de sauter des repas et que ce chiffre monte à plus d'un Français sur 3 pour les plus précaires. Alors bien sûr, pour ceux qui s'intéressent aux quartiers populaires, ce n'est pas une surprise. Quand vous savez qu'à quelques stations de RERB du centre de Paris, il y a des communes qui ont un taux de pauvreté 3 fois plus élevé que la moyenne nationale, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre qu'avec un ralentissement de l'économie, ce sont ces populations qui vont trinquer en premier.
Oui.
D'ailleurs, à cet égard, on se souvient qu'en avril, le préfet Tensani redoutait des émeutes de la faim dans son département.
Ce qui est notable, c'est l'accélération du phénomène effectivement de la précarité avec le Covid. Alors, le gouvernement, tout de même, Thomas, a lancé un plan de relance pour répondre à la crise.
Tout à fait. C'est d'ailleurs en connaissance de cause qu'il a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps en ne consacrant, attention, roulement de tambour, que 0,8% de son plan de relance aux plus précaires. Autant dire pas grand-chose. Vous savez que c'est des économistes atterrés comme on aime comparer les masses monétaires. Si on donnait un chèque de 1 000 euros aux 30% des ménages les plus modestes, ça reviendrait à 10 milliards, soit l'équivalent de la baisse d'impôt sur la production accordée aux entreprises. N'oublions pas de préciser que cet argent serait directement consommé et, à mon avis, très peu placé dans un compte en Suisse. Mais suivant la logique de notre ministre Bruno Le Maire, la baisse de fiscalité n'est pas un cadeau aux entreprises, mais un soutien aux ouvriers. Bref, l'avenir nous le dira, vous savez quelle est ma position. En attendant, un grand merci aux bénévoles et associations pour leur travail sur le terrain et pour porter la voix des plus démunis.
Bien sûr, un grand bravo à eux, évidemment, on pense à eux et notamment au boulot formidable que font les bénévoles du Secours Populaire. Merci pour ce coup de cœur
merci
auprès
beaucoup.
Des bénévoles qui s'occupent des autres. Merci Thomas Porcher.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et dans le grand débat du Club des Idées ce soir à 19h21, on s'intéresse au séparatisme. Le séparatisme en question, Emmanuel Macron est attendu vendredi sur le sujet. Un discours maintes fois reporté qu'il devrait cette fois prononcer au Mureau dans les Yvelines à côté de Paris. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Séparatisme, communautarisme, entrisme d'un islam politique ? Le sujet est devenu d'actualité sur le devant de la scène, même depuis quelques mois. Alors, quelle réalité derrière cette idée de séparatisme ? Des territoires sont-ils abandonnés aux mains des islamismes radicaux qui prennent le contrôle des esprits ? Les quartiers populaires sont-ils, comme l'affirme le ministre Darmanin, gangrénés par les intégristes ? On en parle ce soir avec nos invités. Bernard Rougier, bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne, Nouvelle et auteur de « Les territoires conquis par l'islamisme ». C'est aux éditions PUF, sorti cette année, en 2020.
Absolument.
Abdelali Mahmoud, bonsoir. Vous êtes théologien, décidément ce soir j'ai du mal, et imam, auteur de « L'islam contre le radicalisme », manuel de contre-offensive. C'est aux éditions du CERF, sorti en 2017.
Tout à fait.
Bonsoir Francis Chouat, vous êtes député apparenté En Marche de l'Essonne, ancien maire d'Evry, et vous faites partie de la mission sur la lutte contre le communautarisme, et vous êtes membre du groupement d'action politique dédié à la laïcité. J'ai rien oublié ?
Absolument, bonsoir à tous.
Bonsoir. D'abord, je voudrais factuellement qu'on tente ensemble de définir l'ampleur de ce phénomène dont on parle. Combien de quartiers seraient aujourd'hui concernés par des situations de communautarisme qui mettent, disent les politiques, en péril les lois de la République ? En janvier dernier, par exemple, la DGSI, les services secrets intérieurs, parlaient de 150 quartiers tenus par les islamistes. Est-ce que c'est à peu près la jauge dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Bernard Rougier ?
Je vais vous répondre très clairement, je ne sais pas.
Vous ne savez
Mais
pas.
Ce que j'ai observé, c'est que chaque fois que nous faisions un terrain avec mon équipe, nous trouvions ce phénomène, avec des formes plus ou moins achevées, plus ou moins globales, plus ou moins complètes, si vous voulez. Dans des formes totalement complètes, on avait un réseau religieux qui avait ses entrées dans la mairie, qui pouvait contrôler l'accès à l'emploi, l'accès au logement social, une partie de la socialisation de la jeunesse.
Oui.
La manière dont je vois les choses, si vous voulez, c'est qu'on a une population d'origine maghrébine et subsaharienne, largement naturalisée français, et qu'un certain nombre de prédicateurs et de réseaux de prédication veulent transformer cette population, créer un collectif au nom de l'islam pour peser dans les rapports de force à l'intérieur de la République.
On estime en France entre 30 000 et 50 000 salafistes, dont 12 000 particulièrement virulents, sur près de 6 millions de musulmans. Alors, ce qui est incroyable et très inquiétant d'une certaine manière, vous allez me répondre Abdelali Mahmoud, c'est que c'est un chiffre qui est en forte progression. En 2004, ils étaient évalués, ces mêmes salafistes, à 5 000, c'est-à-dire 10 fois moins. Est-ce que c'est également ce que vous observez ?
Non, pas du tout. Les chiffres du salafisme étaient déjà beaucoup plus importants que ce que vous dites au début du 20e siècle, du 21e siècle.
Oui.
Là, vos chiffres que vous évoquez me semblent pas du tout réalistes quand on parle de 150 quartier, ou même beaucoup plus que ça, je pense. Et je pense aussi que beaucoup d'entre eux ne vivent pas dans ces quartiers-là.
Et attendez, quand vous dites pas réaliste, ça veut dire que selon que vous, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus.
Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Le nombre est beaucoup plus important.
Et pour reprendre les chiffres, même s'ils sont, discutables, mais 30 à 50 000 salafistes aujourd'hui en France. Alors, il n'y a pas que le mouvement salafiste, hein, qui est un mouvement rigoriste. Il y a aussi les frères musulmans. Enfin, voilà, il y a tout un tas de mouvements. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une augmentation assez notable depuis quelques années de ce mouvement ?
Ce mouvement s'est émancipé dans les années 90. Il faut être honnête, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler de cette mouvance, cette doctrine qui, bien entendu, porte le vrai nom de ce qu'on appelle le wahhabisme, c'est-à-dire qui est issu de l'Arabie Saoudite et de son cheikh, son penseur, son mentor, qui était Mohammed ibn Abdel Wahhab. Celui qui a donc intronisé la famille Saoud au pouvoir en Arabie Saoudite, en légitimant bien sûr le désaveu de l'Empire Ottoman, qui était lui aussi un empire musulman. Donc manœuvre, on va dire, politico-religieuse qui a été donc entreprise en Arabie pour justement légitimer la prise du pouvoir par la famille des Saouds.
Francis Choa, sur le constat aussi, vous partagez tout ce qui a été dit, il y a une augmentation du phénomène de l'entrisme, on appelle ça, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il faut dire communautarisme, parce que le séparatisme, c'est un mot qui a été un peu créé, inventé par Emmanuel Macron là récemment, mais on parle de la même chose, hein, communautarisme, entrisme de l'islam politique, séparatisme.
Je partage les constats qui viennent d'être faits, difficile aussi de les quantifier, et puis il faut faire attention à quelque chose. Il n'y a pas, heureusement, encore en France, de quartiers qui sont, ou de territoires qui sont totalement sous la coupe réglée d'organisations politiques sur la base d'un islamisme politique radical salafiste. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de recul de la République. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut y faire attention. Si on a quelques minutes, il faudra pouvoir rentrer dans ce sujet. Et puis, il y a, de manière politique, explicite, ou de manière non explicite, souvent en utilisant d'ailleurs les grandes causes humanitaires. Je pense à une association sur la circonscription d'Évry-Courcouronne, qui est cette association Baraka City, dont le président se lance dans des véritables campagnes de harcèlement et de menaces de militantes républicaines anti-islamistes. Donc, alors, pour répondre à votre question, je préfère dire les choses franchement, c'est plutôt mon habitude. Il y a un rapport de force aujourd'hui où certains veulent imposer le communautarisme.
Oui, le communautarisme, au détriment des lois de la République.
Comme substitution au mode républicain qui a construit la France.
Alors on parlera, parce que c'est un sujet très important pour bien comprendre ce phénomène, de la méthodologie dans cette conquête de territoire de la part de cet islam politique. Dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Oui, 19h31, on est toujours avec nos invités dans le grand débat du Club des Idées pour parler du séparatisme. Le séparatisme en question à 48 heures maintenant du grand débat et du grand discours qui sera prononcé au Mureaux dans les Yvelines par le président Emmanuel Macron. Ce sera donc vendredi. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la méthode et la manière dont ces islamistes radicaux conquièrent les territoires. C'est l'objet de votre livre, hein, Bernard Rougier. Il y a des écosystèmes islamistes, dites-vous, qui créent de véritables territoires de l'islam et qui mettent en résonance mosquées, librairies islamiques, commerces halal, salles de sport. C'est-à-dire qu'on arrive pas à pas et pied à pied, on construit une communauté.
C'est ça, c'est l'écosystème et c'est une forme de fraternité islamique ou islamiste qui fonctionne dans différents endroits. Et tant que la République ne pourra pas, elle, apporter une fraternité républicaine, on ne voit pas très bien comment, il y a des sociabilités qui croisent, si vous voulez, l'affectif et le cognitif.
Oui.
On va prier avant de commencer le sport, on va interrompre le match de foot par une des prières quotidiennes. On est dans un système, si vous voulez, de vie. On est dans une forme de vie qui fait que c'est extrêmement difficile à briser, puisque c'est perçu comme étant l'expression de l'islam et l'expression d'une solidarité. Dans une société où le chômage est celui que nous connaissons, où la société est désindustrialisée, où il n'y a plus d'instruments intégrateurs, on a ces réseaux associatifs qui prennent en charge une partie de la jeunesse. Et ce n'est pas du tout un hasard si c'est parmi cette jeunesse qu'on trouve souvent les attitudes les plus radicales.
Et c'est la même chose aussi à l'école. Hein. Je pense bien sûr au rapport de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il a été l'un des premiers à alerter dès 1996. C'était à l'époque un peu tabou de parler de ça. Et puis il connaît aujourd'hui un certain succès parce qu'il avait été l'un des premiers à alerter. Et alors, ce qu'il dit, c'est que ce sont des élèves qui protestent contre la galette des rois, contre l'arbre de Noël, des jeunes filles qui refusent la piscine, des auteurs comme Voltaire ou comme Rousseau qui sont boycottés dans les salles de classe. Abdelali Mamoun, vous êtes théologien et imam. Ce sont des comportements que vous observez, vous aussi ?
Pas trop, effectivement. La grande majorité des musulmans aspirent effectivement à s'intégrer pleinement dans le paysage français sans à redire à quoi que ce soit de tout ce que vous évoquez. Effectivement, il existe quelques franges, une frange extrêmement minoritaire qui fait du bruit. Hein. On dit que c'est l'arbre qui tombe qui fait du bruit, alors que le reste des arbres continue à pousser
dans
le silence.
Mais vous êtes confronté à des croyants qui ont ce type de discours. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Écoutez,
comment est-ce qu'on peut désembrigader des jeunes qui se lancent dans un islam radical ou qui sont séduits par un islam radical, oui ?
Il y a tellement de points et de sujets à développer et à, on va dire, à décortiquer, voire même à démonter, qu'on ne peut pas le faire en une seule conversation, une seule discussion avec une personne qui est contaminée et endoctrinée par ce genre d'idéologie. On va d'abord parler de la laïcité, on va parler, par exemple, des valeurs républicaines, on va parler de la notion de la démocratie. Toutes ces expressions-là qu'ils considèrent, eux, comme une hérésie, comme quelque chose d'incompatible avec leurs convictions, il est nécessaire donc de les développer un par un et de démonter ce discours-là point par point. Donc c'est tout un travail pédagogique qui doit être fait avec la notion d'altérité, par exemple.
Oui,
le fait qu'ils acceptent que d'autres pensent différemment qu'eux et que eux, s'ils critiquent les autres religions, ils doivent accepter d'être critiqués. Ben ça, pour eux, non, ils n'acceptent pas ça. Ils sont dans cette intolérance. Puisqu'ils sont dans la vérité absolue, personne n'a le droit de les critiquer.
Francis Choa, il y a Hugo Micheron, chercheur, qui a fait un travail assez remarquable sur les djihadistes, mais aussi sur cette idée de radicalisation, qui dit, lui, que le phénomène s'accélère à partir du 11 septembre 2001, on imagine pourquoi, avec le démarrage d'une radicalisation d'une... Attention, on s'étouffe en plateau, ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Bon, prenez votre temps, prenez votre temps. Avec le démarrage d'une radicalisation d'une frange de la jeunesse musulmane à partir donc de 2001 et qui a été crescendo depuis.
Malheureusement, confirmé par des enquêtes récentes qui montrent qu'une fraction non négligeable de la jeunesse en général ne se retrouve pas dans le « je suis Charlie » qui est symbolique de quelque chose, de la liberté, de ce qu'est la France, et sans doute beaucoup plus parmi les jeunes qui... se retrouvent, se reconnaissent, s'identifient à la religion.
Mais comment vous l'expliquez que des jeunes qui sont de la deuxième, troisième génération soient séduits par ce type d'idéologie ? D'ailleurs, j'ai vu que le salafisme séduisait aussi beaucoup les convertis, ce qui est quand même un phénomène assez étonnant.
De manière inversement proportionnelle, d'ailleurs, sans doute plus, sans doute aussi par méconnaissance des soubassements de la culture musulmane et de la religion musulmane. Comment ça s'explique ? Par deux phénomènes. Très très rapidement, le premier, je vais dans le sens de ce que disait le professeur Rougier, c'est l'affaissement de la promesse républicaine. Et je ne parle pas seulement de ce qui relève de la lutte contre les inégalités sociales, le chômage, la précarité, les ghettos, certains ont dit l'apartheid social territorial et
Manuel
ethnique,
Valls,
je l'ai bien vécu, j'étais son adjoint, mais je pense surtout à l'affaissement de tous les réseaux d'éducation populaire, d'associations, de mouvements politiques. Aujourd'hui,
laissé le terrain libre aux islamistes.
Aujourd'hui, il y a un nombre de villes incroyables où la plus grosse association de la ville, vous savez ce que c'est ? C'est la mairie. Et uniquement la mairie, sans plus aucun intermédiaire. Voilà. Donc, il y a la nature ayant horreur du vide, et le contexte social, le contexte politique et le contexte idéologique ayant beaucoup changé, pas seulement en France, mais dans le monde, notamment depuis les attentats de 2001. Oui, il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, et c'est un désastre, de plus en plus de jeunes ont une vision de la société, de leur propre avenir, totalement fractionnés, selon l'idée qu'ils se font de la religion, selon le sexe, selon l'ethnie, et selon maintenant le fait qu'il faudrait déboulonner l'histoire parce qu'elle est, coloniale. Il n'y a plus d'en commun.
Oui, oui.
Il n'y a, et donc, la question de la loi à venir...
L'individualisme a pris le pas sur le collectif, mais ça, c'est...
La question de la loi à venir, qu'il faut nommer, pour la reconquête républicaine, soyons clairs, contre le communautarisme, c'est une loi qui doit reconquérir les esprits et les cœurs. Et ça sera long, très long.
On verra ce que peut annoncer le président Macron vendredi et ce qu'il faudrait qu'il annonce. Et puis on ira aussi par téléphone avec Raphaël Baquet qui a écrit un ouvrage assez remarqué sur ce qui s'est passé du côté de Trappes dans les Yvelines. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, c'est toujours le débat du Club des Idées. Ce soir, on parle du séparatisme à 48 heures du grand discours attendu par Emmanuel Macron dans les Yvelines. Au Mureau, où il devrait faire des annonces sur cette question du séparatisme. On en parle avec nos invités et on en parle également avec Raphaël Baquet. Bonsoir, vous êtes journaliste.
Bonsoir.
Au Monde et vous avez coécrit avec Ariane Chemin, journaliste également au Monde, un ouvrage très remarqué sorti en 2018 qui s'appelle La Communauté et qui se déroule à Trappes. Vous avez mené pendant un an une enquête à Trappes et vous vous posez cette question qui est fondamentale pour bien comprendre le sujet du séparatisme et du communautarisme. Comment ce territoire, d'où sont issus Omar Sy, Jamel, le champion Nicolas Anelka, le champion de foot, ou encore le rappeur Lafouine, est aussi l'un des plus importants pourvoyeurs de djihadistes partis, notamment pour l'Irak ou encore la Syrie? Et votre réponse, Raphaël Baquet?
D'abord, on le voit bien, là à Trappes, il y a les deux formes de séparatisme. Le séparatisme le plus abouti et le plus dangereux, qui consiste à se retourner contre son pays d'accueil ou son pays de naissance, c'est le djihadisme. Alors à Trappes, effectivement, il y a eu quand même 72 départs au djihad, c'est un record européen, un triste record.
Oui.
C'est lié très clairement à une minorité agissante, qui est là depuis longtemps, bien avant 2001, à vrai dire. Il y a deux familles qui arrivent directement de la guerre civile algérienne, hein, deux familles qui étaient des militants du GIA, le groupe islamique armé, et donc évidemment qui vont créer un terreau et qui vont se combiner, si vous voulez, avec l'arrivée des prédicateurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui va donner le djihad, et c'est à la fois évidemment l'aspect le plus tragique, mais d'une certaine façon, c'est celui sur lequel on peut le mieux lutter, si je puis dire.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que à Trappes, par exemple, on a envoyé après 2015, on a vraiment évidemment renforcé les pouvoirs de police, les pouvoirs des services de renseignement, le fisc aussi, car il faut bien voir que les islamistes radicaux, c'est aussi une prise de pouvoir. Parfois un marché, hein.
Oui.
C'est un système où on peut gagner de l'argent. Donc le fisc, à vrai dire, autant que la police, ont été très partie prenante dans la lutte contre ces recruteurs pour le djihad.
Et sur l'autre volet, Raphaël Baquet,
et maintenant,
la
captation il y a l'autre volet, le séparatisme, qui est le fait de s'abstraire de la communauté nationale. À Trappes, comme dans d'autres villes, on le voit bien, c'est le fait, par exemple, de ne pas envoyer les enfants à l'école, de faire l'école à la maison. C'est quelque chose de très important, à vrai dire. Hein. Faire l'école à la maison, c'est évidemment échapper pas mal au contrôle de l'éducation nationale. Et ça, c'est très difficile. C'est le fait de contester certains enseignements lorsqu'on va à l'école. L'enseignement de la musique, par exemple.
Oui.
Hein. Évidemment, la pratique du sport, c'est très important. Des choses qui paraissent, au fond, qui ne relèvent pas du savoir économique et académique et qu'on regarde moins, mais qui sont très importantes. Et
mais
puis, je voudrais
volonté,
insister
pardon,
quand même,
Raphaël
parce
Baquet,
que...
Dans ce que vous avez observé, il y a une volonté de prosélytisme, d'accaparement d'un territoire. C'est vraiment un islam politique, comme on l'entend beaucoup, qui est à l'œuvre
c'est
dans ces territoires.
C'est le fait de s'abstraire de la communauté nationale, oui. de surtout pas avoir le même enseignement.
Mais de capter les esprits
Je pense
aussi.
Que c'est aussi une prise de pouvoir sur les femmes, quand même. Je voudrais insister là-dessus, parce que les femmes en sont souvent les premières victimes.
Mmh.
Et évidemment, le fait d'imposer certains rites, certaines façons de faire, c'est une prise de pouvoir sur
Alors,
les femmes.
On va faire réagir les invités en plateau. Bernard Rougier, d'abord.
Je confirme tout à fait les observations de Raphaël Baquet. Le lien avec l'Algérie est fondamental pour comprendre la salafisation de l'islam en France. Au fond, le salafisme va bien au-delà des réseaux qui se réclament explicitement du salafisme. Et donc, on a précisément un lien avec l'altérité qui est construit idéologiquement. Le lien social devient à la fois affectif et idéologique. Et n'oublions pas, la fin de la décennie noire en Algérie s'est conclue par une armistice. Et en gros, les termes de l'armistice, c'était de dire, vous vous ne vous battez plus, mais en échange, vous aurez une partie de l'espace religieux et de l'espace culturel en Algérie. Et ce pacte qui s'est noué à la fin des années 90 a rétroagi très très vite en France. Et donc on a eu comme ça une poussée très forte de la salafisation de la prédication par l'effet de la solidarité franco-algérienne, si j'ose dire. Ajoutez à ça l'enjeu économique, le contrôle des agences de pèlerinage, qui permet également de promouvoir un islam de type salafiste. Et donc c'est en effet l'islam comme marché, l'islam comme idéologie, qui a joué au bénéfice d'entrepreneurs de réseau très habiles qui ont agi sur les liens transnationaux au moment de la fin de la guerre froide.
Abdel Ali Mamoun, que doit annoncer le président de la République vendredi pour lutter contre ces séparatismes ?
Il doit encourager, prendre des mesures nécessaires à une nationalisation de l'islam de France pour que nous puissions avoir des référents religieux crédibles et légitimes.
Comment ? C'est pas ce qu'avait voulu faire le président Sarkozy avec le CFL.
Non, attendez. Sarkozy, ce qu'il a mis en place, c'est une organisation du culte. C'est-à-dire qu'il a mis en place des personnes qui organisent le culte, ou qui essayent du moins avec beaucoup de mal.
Mais sauf qu'à l'intérieur, je crois qu'il y avait 13 représentants des frères musulmans. Donc déjà, le
mais pas que. Le reste, c'est quoi les autres ? C'est des Marocains qui agissent au nom et sous les ordres des consuls ou des ambassadeurs. Du Maroc, de la Turquie, etc., etc. Qu'est-ce qui est français et qui est pour l'intérêt de la France dans ce conseil étranger du culte musulman ? Parce que moi, je l'appelle conseil étranger, il n'a rien de français.
Ouais.
Il est où l'islam de France, l'islam français ? Il n'y a pas ce discours-là.
Donc, premier élément, bâtir un islam de France
avec
des imams français.
Et le faire avec des imams qui sont crédibles et qui sont légitimes, donc populaires, et à la fois reconnu par les institutions françaises.
Francis Shoah, même question, que faudrait-il faire ? Que faudrait-il annoncer demain, si vous étiez le président de la République, pour lutter contre ce séparatisme, là, à court terme et moyen terme ?
De manière remarquable, sur la base d'une enquête remarquable, d'une ville que j'ai bien connue, à Trappes, et ce que vient de dire monsieur l'imam, islam de France, à construire, c'est une bataille de long cours, parce que ça ne se fera pas sans les responsables de l'islam qui sont profondément divisés et dans le cadre de la séparation de l'Église et de l'État, mais il faut le faire.
D'accord.
Et c'est en cours d'ailleurs, il y a des structures départementales qui
mais en attendant à plus court terme, comment est-ce qu'on fait pour ramener dans le giron républicain ces jeunes qui sont égarés et qui sont séduits par un islam radical ? Comment
alors
on fait
je vais vous prendre une mesure, une seule qui nécessiterait beaucoup de développement. C'est sur le terrain, rétablir de manière durable le couple mère préfet, pour que plus personne, parmi les agents publics, les services municipaux, les services départementaux, de conseils généraux, etc., etc., se trouve comme une poule devant un couteau lorsqu'on est confronté à des problèmes, ceux de Raphaël Baquet dans l'éducation, dans les associations, dans les clubs sportifs, dans les secteurs de la santé. La loi, elle devra préciser un certain nombre de choses.
Ça a toujours
choses.
Été le cas en France, hein. Comment on se souvient des jeunes filles voilées de Creil en 1989. Oui. Le politique a toujours été, comme vous le dites, comme un lapin dans les phares d'une voiture, avec un temps de réaction qui souvent arrivait
Alors tirons les leçons, il faut donc le courage d'une loi qui clarifie et qui redonne confiance dans celles et ceux qui sont dépositaires de la construction de la République.
En un mot, vous êtes d'accord, Bernard Rougier ?
Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il faut vraiment réaffirmer la nature républicaine de notre système politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce salafisme joue sur le corps des femmes qu'il cherche à contrôler, le corps des jeunes gens qu'il cherche à entraîner dans les salles de sport, etc. Qu'il cherche à transformer par le vêtement, par des tas de méthodes. Mais la grande difficulté, ça va être d'introduire des solidarités, un tissu associatif non islamiste, non religieux, qui pourra contrebalancer précisément ces réseaux de prédication.
Alors, vous restez avec nous encore quelques secondes, car 19h48, juste après la pause, on parlera des archives d'Europe Soir. C'est la chronique Le Jour Où, et on s'intéressera à la première marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. C'est peut-être aussi là qu'une certaine population s'est sentie pour la première fois abandonnée. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, le débat se poursuit hors antenne, c'est très animé dans le plateau ce soir d'Europe Soir. On parle de l'entrisme religieux. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Pauline Jacob.
Bonsoir.
Alors ce soir avec vous, on parle d'un événement fondateur en France, un événement qui a marqué l'histoire des luttes antiracistes et vous allez voir que ça n'est pas si éloigné de notre sujet de ce soir. C'est une marche pacifique dans tout le pays. C'est en 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche a été baptisée très rapidement par les médias à l'époque la marche des beurs.
Oui, elle commence à Marseille, elle se terminera à Paris, mais elle est née véritablement à Vénissieux, au pied d'un lit d'hôpital, celui de Toumi Djaïdja. Il a survécu au tir d'un policier, cité des Minguettes, surnommé à l'époque le Bronx de la France. Nous sommes à l'été 83 et depuis 2 ans, les agressions et les crimes racistes anti-arabes se multiplient. En politique, le Front National gagne du terrain, Jamel, Toumi, Fatima veulent agir contre le courant raciste qui traverse le pays. Eux décident alors de traverser la France.
Et c'est dans un certain silence médiatique, Pauline, que commence cette marche de l'égalité contre le racisme. À Marseille, on est le 15 octobre 83.
Ils sont une trentaine à partir du quartier de la Caillole. Ils font les premiers pas, éprouvent les premiers doutes. Le fossé n'est-il pas trop grand, pas trop creusé par la psychose de l'insécurité? Mais non, plus ils avancent, plus ils sont rejoints, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des citadins, des ruraux. À Lyon, le cortège s'étoffe. À Strasbourg, la secrétaire d'État à la famille et aux travailleurs immigrés, Georgina Foy, se joint à la marche. Reconnaissance officielle, presque inespérée. Les médias en parlent. Le mouvement prend de l'ampleur. Jean-Louis Calderon suit la manifestation pour Europe 1.
Les organisateurs et les marcheurs ont répété leur slogan. Non au racisme, justice pour nos morts, égalité des droits et des devoirs entre Français et immigrés. Mais certaines banderoles et certains slogans n'ont pas épargné les autorités. Le premier raciste, c'est l'État français, pouvait-on lire sur certaines pancartes.
L'État est dans le viseur de ces marcheurs tout au long de leur périple sud-nord. Il faut absolument punir ces assassins.
Oui, d'autant que le 15 novembre 83, pendant cette marche, un jeune Algérien est tué dans un train de nuit, Bordeaux Vintimille.
Il avait 26 ans, Habib Grimzi, jeté du train par de jeunes recrues de la Légion. Sur Europe 1, Bernard Lavergne raconte ce déchaînement de haine raciste.
Injures racistes, puis très vite, les futurs légionnaires passent aux actes. 3 des jeunes recrues retrouvent Habib Grimzi. Cette fois, ils sortent les couteaux, puis ouvrent une fenêtre et poussent le jeune Algérien hors du train. Il est tué sur le coup. Son corps est retrouvé au petit matin sur le bord de la voie ferrée entre Castelsarrasin et la Ville-Dieu dans le Tarn-et-Garonne.
Pas un seul des 95 passagers n'a réagi. En pleine marche pour l'égalité, l'horreur du crime ébranle le pays et gonfle encore un peu plus les rangs des marcheurs qui s'approchent de Paris.
Paris, le 3 décembre 83, arrivée donc de la marche en apothéose,
Pauline. Ils sont 100 000 effectivement à l'arrivée entre Place de la Bastille et Montparnasse. Immense succès de ce périple. 1500 km à travers la France que beaucoup découvraient alors pour la première fois. Entre les 4L, les camions, dans les villes et les villages. Des mains tendues, des applaudissements qui suscitent l'espoir. Toumi Djaïdja et une dizaine d'autres organisateurs sont reçus par le président François Mitterrand.
On peut dire qu'on a déjà fait un pas vers l'égalité, ça c'est certain.
Et pour vous alors, c'est quoi le bilan de cette journée ?
Eh ben, ça a changé une chose qu'on ne peut plus jamais rien généraliser. On ne peut plus dire que les Français sont racistes. Le fait qu'il y a des gens de quelque âge qu'ils soient, ils sont venus marcher avec nous, on ne peut plus généraliser. Le fait qu'un policier a collé un autocollant de la marche, on ne peut plus dire que les policiers sont tous salauds. Voilà.
Nous, les jeunes, nous avons fait le premier pas dans le sens du dialogue. Est-ce que vous, Français, vous ferez le second ? Demandait un organisateur à la fin de la marche. Cette marche, où pour la première fois, la deuxième génération d'immigrés apparaissait dans l'espace public en tant qu'actrice d'un mouvement social pour l'égalité et pour la reconnaissance de sa citoyenneté française.
Merci Pauline pour ces archives. Réaction Bernard Rougier. Alors les sujets sont éloignés l'un de l'autre, mais est-ce qu'on peut faire un lien quand même ?
Bien sûr qu'on peut faire un lien, parce que là c'est une promesse qui n'a pas été saisie. Et il y a eu les déçus de la marche des beurs. Le local d'où est partie la manifestation a été transformé en mosquée. Un certain nombre de gens qui animaient le mouvement sont devenus islamistes. Et la réponse gouvernementale a été une réponse politicienne avec la création d'SOS Racisme, l'instrumentalisation de cette jeunesse pour combattre le Front National que par ailleurs, le président Mitterrand faisait monter en changeant le mode de scrutin. Donc là, il y a eu un exercice très cynique qui va produire des effets évidemment très importants auprès de cette partie de la jeunesse.
Merci Bernard Rougier, merci à tous les trois d'avoir été ce soir les invités du Club des Idées d'Europe Soir. 19h56, dans un instant le rappel des titres, l'info avec l'excellent Julien Pierce et puis juste après Émilie Mazoyer pour la musique qui reçoit ce soir Dany. Passez une très belle soirée, à demain 18h.